Alors, Ocapoclan, en fait, c'est une chanson qui est chantée par Nello Liberti, donc qui est un chanteur napolitain néo-mélodique. Et c'est une chanson qui a été commanditée par le chef du clan, parce que Ocapoclan, ça veut dire littéralement le chef du clan, donc le boss. C'est une chanson qui a mis la puce à l'oreille de la justice italienne à l'époque,
On est en
qui
quelle année?
a. Alors, c'est en 2004 et quelques années plus tard, c'est-à-dire en 2009-2010, le parquet antimafia s'est intéressé à cette chanson en particulier parce que c'était une des plus explicites. Alors, dans les textes, un véritable hommage qui est rendu à la figure du boss, donc du chef du clan, mais aussi à une personne en particulier, donc le commanditaire qui est Vincenzo Olivero et qui était à l'époque un des boss des nombreux clans de la périphérie de Naples.
Mais tout cela est public, tout cela, on peut l'entendre sur tous les réseaux. Il n'y a rien de
Alors,
secret ou de caché au départ.
non, il n'y a rien de secret ou de caché, mais la différence des sérénades napolitaines, donc de la chanson néo-mélodique qui fait l'apologie de la Camorra, avec par exemple les narco-corridos au Mexique, c'est que il n'y a pas de personnalisation. On n'entend pas de nom dans les chansons. C'est là où les napolitains sont très malins finalement. Ils font plutôt l'apologie d'une figure plutôt que d'une personne en particulier. Et avec cette chanson Ocapoclan, c'était la première fois qu'on arrivait à faire un lien direct finalement entre un clan et une chanson néo-mélodique, puisque dans le clip, on voit des personnages du clan qui jouent presque leur propre rôle. Alors, pas le chef du clan, parce qu'il s'est quand même protégé, mais par exemple, son chauffeur, ses gardes du corps. Il a même été établi qu'un de ses hommes de main, donc, paradait sur un scooter avec une arme à la main.
Alors la suite, que s'est-il passé? Est-ce que la justice en est saisie et de quelle façon ou pas?
Le chanteur, donc Nello Liberti, a été arrêté, a été inquiété en fait pour incitation à la délinquance. Il n'a pas été mis sous les verrous, malgré les velléités, j'ai envie de dire, du parquet antimafia, qui prenait en fait cette affaire un peu comme un symbole pour arrêter cette course folle à l'apologie de la Camorra dans les chansons. L'affaire est toujours en cours, elle s'est un peu perdue dans les méandres de la justice italienne,
10 ans
mais
après.
elle est 10 ans après, exactement. Mais elle est quand même suivie de près, notamment par les médias, parce que cette affaire, donc, Ocapoclan, a permis d'exporter ce phénomène néo-mélodique en dehors des frontières de Naples, où il est très, très présent, où il est assumé. Le néo-mélodique, c'est une musique populaire, c'est-à-dire qu'on l'entend résonner dans tous les coins de Naples, dans les quartiers défavorisés en particulier. Et cette affaire, bon, a commencé par intéresser les journalistes en Italie, et puis ensuite à l'étranger.
Qu'est-ce que ça nous dit de la situation actuelle, du rapport de force, notamment à Naples, entre la justice, on va dire les médias qui sont quelque part témoins ou acteurs, et la Camorra?
C'est un rapport de force qui est difficile, qui est difficile. Moi, quand je me suis intéressée à ce sujet, ça me semblait important d'aller entendre le point de vue de la justice italienne, donc là qui est représentée par le parquet antimafia de Naples. Mais c'est pas seulement un point de vue que j'ai voulu entendre, c'est aussi une façon très concrète, un quotidien. Comment est-ce qu'on lutte contre la Camorra au quotidien? Et le procureur Rosario Cantelmo que j'ai interviewé à l'époque, finalement, il est un peu dépassé par la situation parce que ce qu'il explique, c'est que la Camorra, elle prospère sur une situation économique qui est désastreuse à Naples, qui l'est dans tout le reste de l'Italie, mais encore plus à Naples et depuis des années. Donc, plutôt que de s'attaquer au clan en tant que tel, donc il y a énormément d'arrestations, hein, surtout ces dernières années. Lui me disait que s'il avait choisi de s'intéresser, par exemple, à cette chanson-là, Ocapoclan, c'était plutôt pour lutter contre le symbole. Parce que ces chansons-là, elles véhiculent donc une image, un imaginaire, auprès notamment des jeunes qui sont prêts à s'engager dans les rangs de la Camorra, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, ou alors le choix de devenir chanteur néo-mélodique.
Alors, il y a aussi vos photos. Cela veut dire que ces chanteurs, on les rencontre facilement.
Alors, on les voit dans des concerts de places publiques, surtout en été. Il y a des
Public.
magazines qui sont, qui, oui, des concerts publics. Alors, ils font aussi, hein, des concerts privés dans des fêtes de famille. C'est d'ailleurs leur principal revenu, les mariages, les communions, via YouTube. Des chiffres assez impressionnants, hein. Parfois, ça dépasse 2 millions de vues. Donc, on peut les
Parce
rencontrer.
qu'il y a des Napolitains dans le monde entier aussi.
Parce qu'il y a des Napolitains dans le monde entier, mais je pense qu'il y a beaucoup de Napolitains qui réécoutent les mêmes chansons aussi. Mais tout ça pour dire que ce n'est pas un phénomène anecdotique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est accroché à la ville. Alors, le phénomène donc néo-mélodique qui fait en particulier de l'apologie de la Camorra, on peut le situer aux alentours des années 80-90. C'est à l'époque, c'est vraiment à l'époque de l'apogée de la Camorra, donc quand, de la Nueva Camorra Organizzata, donc quand elle était vraiment centralisée et qui était une vraie mafia centralisée sur un territoire, comme peut l'être un peu la mafia en Sicile. Ensuite, elle s'est fragmentée par le biais de clans. Et la musique néo-mélodique, il y a une petite partie hein, qui fait l'apologie des chanteurs de la Camorra. Le reste, ce sont beaucoup de chansons d'amour. On parle beaucoup d'amour à Naples. Parce qu'à Naples, on vit dans une espèce de société parallèle, tout le temps, que l'on fasse partie de la Camorra ou pas. Il y a un système qui s'appelle l'art de s'arranger, l'arte di arrangiarsi. Et la musique néo-mélodique a créé aussi une industrie musicale parallèle, telle que nous, on connaît une industrie culturelle classique, hein, avec la promotion des artistes, la diffusion, l'écoute, etc.
Cela veut dire que la législation n'a pas évolué, elle est incapable de dire mais ce que vous chantez là, au fond, est répréhensible et on va vous poursuivre. Tout cela se fait dans un certain flou ou pas ?
Oui, c'est flou et ça n'a pas été encore défini puisque l'affaire Nello Liberti au Capo Clan n'a toujours pas abouti. Donc c'est bien révélateur de quelque chose. Moi, à l'époque, quand j'ai rencontré les magistrats qui étaient en charge de cette affaire, ils me disaient que la frontière était très ténue en fait entre l'apologie de la Camorra et finalement la question de la liberté d'expression. Où est-ce que s'arrête la liberté d'expression ? Et je pense que c'est toute une définition qui est encore à faire et que la justice italienne, malheureusement, a encore du mal à exécuter.
Donc, vous avez rencontré les magistrats et les chanteurs. Vous les avez vus ?
J'ai surtout rencontré les chanteurs, oui.
Que disent-ils ? Ils sont fiers, ils sont arrogants. Ils disent, regardez, on peut dire ce qu'on veut, finalement, dans ce pays.
Alors, oui, ils le disent comme ça. En fait, eux l'expliquent par la loi de l'offre et de la demande. C'est comme ça qu'ils se justifient. C'est-à-dire,
c'est un business.
C'est un vrai business qui rapporte beaucoup d'argent, un peu moins ces derniers temps, puisque la crise a pointé le bout de son nez aussi. Ce sont des sommes qui ne sont pas déclarées au fisc italien, qui lui-même aussi s'intéresse aux chanteurs. Hein. Donc de temps en temps, il y a certains coups de filet. Voilà. Mais c'est un véritable business, donc eux surfent sur cette vague du business. Il y en a d'autres aussi qui assument complètement cette apologie en expliquant que l'État italien les a laissés tomber. Il n'y a que la Camorra. La Camorra est la seule alternative, le système en général est la seule alternative qui fait vivre finalement Naples et sa région et qu'ils sont en droit de rendre hommage à ces personnes-là.
Donc vous avez passé du temps à Naples, vous le disiez à propos de ces chanteurs, à propos aussi d'autres phénomènes. Plus qu'ailleurs, beaucoup plus qu'ailleurs, il y a des villes dans la ville de Naples. Il y a une ville religieuse, il y a une ville administrative, il y a une ville de Camorra, il y a une ville de petit trafic, etc. etc. C'est une ville qui est, comment vous l'avez abordée ? Elle est très difficile à connaître finalement, ou finalement tout est clair puisque tout est dans la rue ?
Alors, moi, j'ai passé 2 ans à Naples et j'avoue que, en fait, quand j'y repense avec du recul, ma période d'adaptation a duré très longtemps. Très longtemps parce que c'est une ville qui est très expansive, qui se donne à voir dans la rue, etc. Mais quand on n'a pas les codes, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe derrière. Pour avoir les codes, il suffit d'y passer un peu de temps et aussi de parler napolitain. Parce qu'il y a beaucoup de gens à Naples qui ne parlent même pas italien. Et c'est compliqué, quand on ne parle pas napolitain, de comprendre exactement ce qui se passe, par exemple, sous nos yeux. Moi, je l'ai abordé par le biais notamment de la chanson néo-mélodique, parce que je me suis dit que c'était un moyen aussi de comprendre et d'expliquer cette ville. Et je pense que j'ai un peu réussi à l'expliquer, justement, en m'intéressant à ce phénomène-là, qui décrit aussi la ville, qui ne fait pas simplement l'apologie de figures de la Camorra, mais qui parle de la ville, de sa beauté, de sa pauvreté, de sa précarité. Naples, c'est une ville précaire. Naples, c'est une ville précaire qui est sans cesse à l'ombre du Vésuve.
De sa menace.
De sa menace permanente, des champs phlégréens aussi, qui sont encore plus dangereux finalement que le Vésuve. Et cette précarité-là, ça donne une force de vivre, ça donne une espèce d'énergie permanente qui peut être un peu étouffante aussi parfois. Et je pense qu'il faut comprendre, en fait, ça. C'est-à-dire que moi, j'ai réussi à dépasser le moment où Naples était dans le spectacle pour m'intéresser un peu plus au phénomène. Voilà, qu'est-ce qui se cache, finalement?
Et alors, votre plus grande surprise par rapport aux idées reçues qu'on a forcément en arrivant à Naples?
Je pense que il y a une poésie. Il y a une poésie qui s'exprime dans la vie. Il y a une liberté énorme. C'est une ville où moi je disais, enfin, le possible semble impossible et l'impossible semble possible. C'est une ville qui est très difficile à vivre, et non pas à cause des ordures qui s'entassent, de la pollution, etc. Parce que on est toujours dans un rapport de force permanent. C'est une ville qui nous emporte. Je pense qu'il est très important d'en sortir aussi des fois pour retrouver sa beauté. C'est une ville magnifique. C'est une ville magnifique que moi je porte dans mon cœur. Naples, c'est ma ville. C'est une ville qui est à la fois accueillante et repoussante, qui est accueillante parce qu'elle accueille tout le monde. Il y a énormément, par exemple, de migrants qui traversent la Méditerranée, qui arrivent à Naples. Moi, j'ai vu encore, puisque je suis encore en contact avec des gens de Naples, des réseaux de solidarité qui se montent autour de ces migrants. À l'heure actuelle, c'est quand même important de le souligner et d'en parler. Mais quand on n'est pas napolitain, eh ben, on reste quand même un peu étranger à la ville. On peut venir de n'importe où, de Paris, de New York, d'Istanbul, de Tripoli. Il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y a pas de différence entre le nord, le sud. C'est une vraie ville de rencontre. Mais je pense que pour pouvoir y rester et y vivre, il faut être napolitain.
Naples a été longtemps la capitale d'un royaume. Peut-on dire aujourd'hui que c'est Naples contre Rome, contre Milan, contre le reste du monde ?
Contre le reste du monde, non, parce que Naples, c'est une ville-monde qui accueille le monde, justement, et qui garde aussi le monde dans son histoire, dans son patrimoine. C'est une ville qui a été occupée par de nombreuses dynasties au fil de l'histoire. C'est une ville fière.
Mais qui a perdu son indépendance, d'une certaine manière.
Qui a perdu son honneur. Et moi, c'est aussi ce que j'ai observé en me plongeant dans ce phénomène néo-mélodique, c'est que c'est une réaffirmation de l'identité. Et à Naples, quand on y est, finalement, les Napolitains réaffirment toujours leur identité. Alors, il y a une nostalgie du passé qui est très présente. Mais pour moi, c'est aussi une ville qui est en train de créer des alternatives. Finalement, alors sans moi faire l'apologie de la criminalité organisée, il y a quand même tous des systèmes de débrouille qui se mettent en place, des systèmes de solidarité en dehors de la Camorra. Il y a des gens à Naples qui essayent de vivre autrement et qui réussissent. Et bien sûr, toujours dans cette dualité Rome-Naples et Rome-Milan. Il y a beaucoup de Napolitains aujourd'hui qui ne se considèrent pas vraiment comme italiens. Ils sont d'abord Napolitains.
Bon, les Milanais disent italiens. Parfois la même chose. Hein.
Les Milanais disent exactement la même chose. Il y a quand même beaucoup d'idées reçues des Milanais sur les Napolitains et les Napolitains vice-versa. Et vice-versa. Voilà.